Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM. Donc, au sommaire de cette émission, cette semaine, une fois n'est pas coutume, on va commencer par parler d'un film. Mais évidemment, ce film est très noir et évidemment, ce film est l'adaptation d'un roman qu'on a beaucoup aimé. Dans une deuxième partie, eh bien, un petit coup de cœur. Et puis, en fin d'émission, sur les coups des 18h50, nous retrouverons Jean-Marc Laherrère pour sa chronique irrégulière, mais tout du moins que nous retrouvons quand même régulièrement et qui viendra nous parler d'un livre paru chez un éditeur excellent qui nous offre de très 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 beaux de très belles lectures en ce moment qui sont les éditions Sonatine. Donc comme je l'ai dit en première partie, nous allons donc parler d'un film. Ce film, il s'appelle en anglais et aussi en français, on a de plus en plus l'habitude de ne pas traduire les titres. Ce film s'appelle Winter Bones et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir François Guéry. François Guéry, bonsoir.
Bonsoir.
Et d'abord, merci infiniment de nous rejoindre. Je dirais que vous êtes la personne idéale pour nous parler de ce film puisque d'un côté, Winter Bones est l'adaptation d'un livre que vous avez édité. Je rappelle, en tant que directeur de collection de Rivage Thriller et de Rivage Noir, il est d'abord sorti en Rivage Thriller, il vient de ressortir en Rivage Noir, un magnifique roman de Daniel Woodrell. Et comme on sait que vous êtes un très grand spécialiste de films noirs, vous allez pouvoir nous parler de ce film qui est sorti le 3 mars, de Winter Bones. Mais d'abord, comme Daniel Woodrell est un de mes chouchous, j'aimerais qu'on rappelle un petit peu, qu'on parle un petit peu de Daniel Woodrell.
Oui, bah Daniel Woodrell est un écrivain, en effet, assez formidable. Moi qui m'avais été conseillé par James Ellroy, qui a d'ailleurs fait la préface du premier livre qui avait été publié en France, Sous les Lumières Cruelles. C'est quelqu'un qui a commencé par la chronique, j'allais dire, d'une famille qui vit dans un espèce d'endroit assez retiré. Il y a un côté western, un côté assez sauvage. Et puis ensuite, il a évolué vers des livres, j'allais dire, de plus en plus tragiques, de plus en plus déchirants. Et je trouve que c'est un merveilleux styliste. C'est un homme qui a un univers bien à lui. Et je trouve qu'en plus, dans les derniers livres, il atteint, comment dire, une profondeur dans la tragédie. C'est vraiment des tragédies, c'est des livres qui me font penser, moi, presque au grand roman de Charles Dickens. Et je serais assez d'accord pour dire que dans les deux derniers, c'est-à-dire qui était La mort du petit cœur et puis Winter's Bone, c'est-à-dire Un hiver de glace, c'est Denis Lehane qui avait dit à propos de La mort du petit cœur, c'est un livre qui m'a déchiré le cœur. Et je trouve qu'il y a cette qualité émotionnelle dans les livres de Daniel Woodrell.
Oui, et en plus une qualité émotionnelle sans aucun effet de manche,
sans aucun pathos, voilà. qui est absolument extraordinaire. Il y a dans Winter's Bone, qui est un livre absolument magnifique, il y a cette jeune fille qui est l'héroïne, qui est son père donc a disparu, il avait mis en gage leur maison, elle risque de tout perdre et elle part sur la route pour aller à la recherche de ce père, bien que personne ne veuille lui répondre et bien qu'elle sache finalement qu'elle met quasiment sa vie en danger en y allant. Et là c'est vrai que quand j'y suis dit tout à l'heure Dickens, où il y a un côté presque, moi ça me pense au Dickens, quand les enfants traversent Londres et que ils ne sont pas sûrs d'arriver vivants de l'autre côté parce que la ville est une jungle impitoyable. Là c'est une nature qui
est
à la fois
belle. C'est une nature, oui, on est dans les Ozarks.
Absolument. Et qui est cruelle et sauvage. Et c'est absolument magnifique et sans aucun effet. Alors le film est très intéressant parce que c'est l'œuvre d'une jeune femme.
C'est une jeune réalisatrice.
Oui, c'est une jeune réalisatrice qui paraît-il a l'intention de ne faire que des films où il y aurait le mot bone dans le titre.
Ah tiens.
Dans son premier film. Donc,
Ça tombe bien puisque le titre original, Winter's Bones, mais j'espère qu'elle a été attirée par justement cette histoire absolument à la fois magnifique et magnifiée de Daniel Woodrell. Elle a passé apparemment beaucoup de temps à faire des repérages et à piocher l'adaptation du film.
Oui, parce qu'elle a un souci documentaire. C'est vrai que les livres de Woodrell parlent de son pays, de sa région, de sa famille, et ce sont des romans profondément enracinés dans le sol de cette région, dans la culture de cette région. Et elle a dit elle-même, en effet, qu'il fallait que... Elle était bien sûr très touchée, très happée par la force de l'histoire elle-même, mais les protagonistes, il fallait qu'elle les connaisse mieux, et elle s'en rendait compte qu'il fallait qu'elle aille sur le terrain pour mieux les connaître.
Alors on va quand même préciser, excusez-moi, je vous interromps, son nom, Debra Granik, voilà, c'est la réalisatrice, elle a fait beaucoup de repérages.
Oui, elle a fait beaucoup de... Alors, le film est formidable. La seule chose qui me décontenance un peu dans le film, la seule petite réserve que j'ai, c'est que quand je lis le livre, j'ai l'impression de voir de la neige partout.
Oui, c'est pas pour rien qu'il s'appelle un hiver de glace en français.
Voilà, et quand je vois le film, il n'y a pas de neige.
Ben, on a l'impression, moi j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait de la neige partout dans le livre, et puis peut-être qu'aussi le titre nous influence un petit peu. Mais c'est surtout cette fusion entre la nature sauvage, cette nature terrible, et les gens qui sont tout aussi miséreux, qui sont eux aussi sauvages, et qui répercutent cette sauvagerie sur cette jeune fille.
Absolument. C'est-à-dire que c'est... je dirais que c'est pas un chemin de croix, c'est une espèce en même temps d'initiation.
Dans les romans de Dickens dont vous parliez, c'est ce que j'allais dire, ce sont quand même, il y a aussi toute cette idée du roman d'initiation.
Voilà, exactement. Et là, c'est vraiment une initiation. Elle se retrouve finalement dès le début du film et du roman. Et le film, alors, d'abord, est servi par son interprète, qui est absolument formidable.
Jennifer Lawrence.
Voilà, et par ses interprètes, parce que quand on sait, par exemple, et sans vous en dévoiler à vos auditeurs ce qui se passe dans le film, quand on sait, par exemple, que celui qui joue le chef de clan, on peut dire tellement redouté, n'est pas un acteur professionnel, que c'est, je crois, un espèce de biker qu'elle a récupéré, et c'est absolument étonnant d'authenticité et de présence sur l'écran. Et ce qui est beau dans cette histoire, tellement magnifique, c'est que, j'allais dire, il y a un itinéraire physique qui se double d'un itinéraire moral, mais en même temps, on le sent, et c'est toujours la force du cinéma américain, on le sent de façon très physique, dans le sens où elle prend la route. Mmh. Et ça, c'est important, elle s'en va sur ses chemins, elle va aller vers des pentes de plus en plus dangereuses pour elle, jusqu'à subir comme, oui, c'est comme un châtiment, mais c'est pas un châtiment, c'est presque le rite de passage, et jusqu'à une fin très, très déchirante. Et tout ça, la réalisatrice le fait de façon magnifique, c'est-à-dire qu'en effet, là aussi, il n'y a pas un seul moment de pathos. Mmh. On découvre, on suit cette jeune fille dans son itinéraire, et on est un peu soufflé
parce que la violence n'est pas forcément montrée de manière abrupte. Il y a beaucoup de pudeur, en fait. C'est très étonnant, d'ailleurs.
Oui.
Parce que c'est presque contradictoire de voir ce que cette jeune fille va subir. Et effectivement, moi, je pensais à un parcours un petit peu presque biblique à travers le mal.
Oui.
Et cette pudeur et aussi les plans de cette jeune fille, comment elle va être d'un côté marquée et comment elle va passer à l'âge adulte.
Tout à fait. Mais justement, je crois que là, elle a pris un pari très, très exigeant et qu'elle a parfaitement réussi. C'est moi, je vois, par exemple, j'ai lu des papiers sur le film qui disaient que ça rappelait Délivrance. Non, c'est absolument pas Délivrance, c'est que, en effet, bon, dans Délivrance, cette nature sauvage aussi, elle va se transformer par des actes physiques qui sont d'une violence absolument presque intolérable à l'écran. Or, elle, je pense qu'elle a pensé que si jamais elle montrait trop cette violence que la jeune fille subit, ça allait fausser le sens du film, qui est en effet que cette transformation, cette série d'épreuves, c'est comme ce chemin, comme un chemin de croix, j'allais dire. En fait, va, ce que vous disiez tout de suite exactement, c'est comment cette jeune fille va devenir une femme. Et en fait, comment, à la fin du film aussi, elle est devenue une adulte, elle a compris, surtout, elle a aussi compris, et puis, il y a cette idée absolument formidable à la fin, c'est aussi une idée un peu de rédemption, un pardon.
Tout à fait, qui est quand même un des thèmes majeurs du roman noir et du film noir.
Absolument.
Et moi, ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas retrouvé non plus, je ne sais pas si vous allez en être d'accord, mais on a parlé de thriller, ce n'est pas du tout un thriller, c'est vrai que c'est un film qui vous happe et qui peut vous impressionner, mais c'est justement l'inverse d'un thriller époustouflant, parce que non seulement il y a cet itinéraire de cette jeune fille, mais on tombe dans le roman noir, dans le roman social, le film noir, c'est-à-dire qu'en plus, elle montre quand même un aspect de l'Amérique, aussi bien ça s'est montré dans le livre, mais la réalisatrice le montre très bien, montre la misère, montre l'autre face de l'Amérique aussi.
Et ça, c'est... Tout à fait, de toute façon, par définition, le roman noir, le film noir, il montre ce qui n'est pas montrable. Il va voir derrière la façade, il va gratter là où ça fait mal, et il va ramener sous les projecteurs ce qu'on avait voulu cacher. Il va soulever le tapis pour voir le tapis.
Allez, un petit peu de Chandler.
Voilà, exactement. Et c'est vrai. Alors là, ce qui est beau aussi, c'est que il y a bien sûr tout ça. Il se montre cette Amérique pauvre, mais en même temps, ce que je trouve très fort et très réussi, c'est que c'est pas un regard d'entomologie, c'est aussi un regard très chaleureux, en fait.
Il y a beaucoup d'humanité.
Beaucoup d'humanité. C'est-à-dire qu'on est un peu comme la jeune fille au début, en tant que spectateur, on est un peu rebuté peut-être par comme ça, ces gens-là, par le cadre, par la misère, par la dureté plutôt de vie et tout. Et en fait, le spectateur aussi, à la fin du film, il a appris aussi à comprendre. Et vous avez employé le mot pudeur, je suis assez d'accord avec ça. Finalement, la pudeur, cette espèce de pudeur incroyable qu'il y a derrière cette violence. Et derrière ces situations que l'on règle d'une façon atroce parfois et tout, mais en même temps, il y a des règles de clan, et il y a une union, il y a un lien qui unit tous ces gens-là, et on finit par le comprendre et par l'accepter, je trouve.
Tout à fait. Ben, je pense que vous avez vraiment donné envie à nos auditeurs d'aller voir ce film, mais je recommande aussi vraiment d'aller piocher dans les livres de Daniel Woodrell. Vous avez cité mes deux préférés, Un hiver de glace et La mort du petit cœur. Alors, ce que je voudrais surtout préciser, parce que j'aime beaucoup parler du travail des traducteurs, donc Un hiver de glace, c'est traduit par Frank Reichert. Voilà, je voulais le dire aussi.
Absolument.
Voilà, François Guérif, merci infiniment. À bientôt.
Ben, je vous en prie, ça fut un plaisir.
Merci. Au revoir. Voilà, et on va continuer dans le biblique puisque Nick Cave va nous parler de Lazare.
Larry made his nest up in the autumn branches. Built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace. And thought it was like a dog-eat-dog world. And he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs.
Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself back in that hole.
He had to get out of there. And San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A.
Et voilà, un petit morceau de Nick Cave, Dig Lazarus, Dig. Dig, ça veut dire creuse. Voilà, et nous, nous allons continuer à creuser dans la littérature américaine, bien que l'auteur ne soit pas américain, mais écossais, mais il a longtemps vécu là-bas. Yin Lewison, un roman étonnant qui s'appelle Arrêtez-moi là, avec une couverture absolument magnifique d'un taxi new-yorkais. Ça en jette, c'est magnifique. C'est aux éditions Liana Levy et c'est traduit par Fanchita Gonzalez Battle. Je dirais, pour introduire ce livre, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Pourquoi ? La preuve. Imaginez, vous êtes chauffeur de taxi, vous rentrez tranquillement après avoir accompagné une cliente à l'intérieur de sa maison. En gros, elle n'avait pas assez d'argent, donc elle vous demande d'aller chez elle pour compléter la somme. En plus, vous rentrez et puis, gentiment, gratuitement, vous raccompagnez deux étudiantes bourrées. Comme elles germent un peu dans votre taxi, bah, vous nettoyez le taxi à la vapeur. Vous vous apprêtez à aller boire un coup avec un pote. Vous avez le droit, hein, quand même. Crac, une semaine plus tard, vous êtes dans le couloir de la mort. Accusé d'avoir enlevé et assassiné la cliente, non pas la cliente, mais la fillette de la cliente impécunieuse, celle de tout à l'heure. Tout cela parce que dans un précédent job, vous avez installé fenêtres et volets, que donc vous avez été regarder les belles installations de la maison de la cliente et que vous avez testé les châssis. Mince, il y a les empreintes. Comment est-ce possible ? Se demande Jeff, ce héros carrément kafkaïen, malgré lui d'ailleurs, pourrait-on dire, de ce dramatique parcours. Oh, c'est pas dur, hein ? Vous prenez quelques flics ripoux prêts à témoigner des dealers en échange, à faire témoigner des dealers en échange de leur libération, un avocat commis d'office qui vous croit coupable, qui fait aucune démarche pour rechercher la vérité, et puis, voilà, on est aux États-Unis, le système judiciaire américain, qui pense que, comme on le dit dans le livre, de toute façon, tu n'es pas innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé que tu es coupable. Voilà. Donc, c'est tout l'itinéraire de ce type qui se retrouve, on sait déjà qu'il est innocent et qui se retrouve en prison. Tout le long du livre, on ne sait pas s'il va sortir ou pas et s'il va aller dans le couloir de la mort ou pas ou s'il va y passer sa vie. Et Yin Lewison, il est particulièrement habile dans cette narration. Loin de faire de son personnage une victime terrifiée, elle pourrait l'être, qui se débat pour prouver son innocence, en fait, il en fait une sorte de témoin, désespéré et répressif, on le serait à moins. Mais un témoin qui va donc raconter, éberlué, mais avec moult détails, son arrestation, son emprisonnement, la lente dégradation de son état d'être humain, sa proximité avec les condamnés à mort, un type en particulier, Robert, un monstre pour chacun, mais qui va être en fait son seul ami. Il dit de lui, il est au bout du chemin et se découvre la liberté rare de pouvoir être totalement honnête. Il n'a plus besoin de vivre un mensonge. On peut dire que la charge envers la police et la justice américaine n'en est que plus implacable, car dénuée de tout pathos. On en parlait avec François Guérib tout à l'heure. On souffre pour Jeff, mais surtout, ça nous fiche en rogne et en colère. Comme je vous le disais, l'écrivain est écossais, il est exilé aux États-Unis, maintenant il est au Japon, je crois, il me semble, il va peut-être bientôt rentrer. Il garde son mordant et sa causticité d'un autre roman qu'on avait beaucoup aimé qui s'appelle « Tribulation d'un précaire » et continue à faire un constat bien effrayant de la plus grande démocratie du monde. Dans un style tout à fait différent, il arrive à nous faire rire et sourire de la terrible descente aux enfers de Jeff. Et ça nous donne une vision de l'univers carcéral qui est bien proche d'Edouard Gunker ou encore plus proche de nous, celle d'Afed Benotman. Voilà, je rappelle le titre, Arrêtez-moi là, Yin Lewison. Et je m'arrête donc là, à tout à l'heure.